Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire. Une fois n'est pas coutume, dans cette éphéméride, il ne s'agit pas d'une date, mais d'un événement. Un événement qui s'étale sur 40 jours, puisque nous allons évoquer en compagnie de Jean Lopez la plus importante bataille de matériel de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk. Je rappelle que cette bataille se déroule sur le front de l'Est entre le 5 juillet et le 20 août 1943. Jean Lopez, bonjour.
Bonjour.
Je précise à nos auditeurs que vous êtes spécialiste du conflit germano-soviétique et qu'ancien officier de la marine marchande, vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef d'un magazine de vulgarisation scientifique. Vous avez publié, il y a déjà quelques mois, un ouvrage intitulé « Kursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht ». Nous sommes donc début juillet 1943, les Allemands s'apprêtent à lancer l'opération Citadelle. Je rappelle qu'à ce moment du conflit, les Allemands cherchent à réduire le saillant très important de Koursk et ainsi à obtenir une grande victoire sur le front du centre. Ils mettent alors sur pied, avec le soutien d'Hitler, l'opération Citadelle qui consiste en fait à envelopper les forces russes dans le saillant de Koursk pour ensuite les éliminer. Déjà, est-ce que j'ai bien résumé ou voulez-vous ajouter quelque chose ou,
non, juste,
ou corriger
la bataille de Koursk stricto sensu dure du 5 au 17 juillet. Ça, c'est le point de vue allemand. Mais les soviétiques l'étendent au 20 août parce qu'ils y incluent les deux contre-offensives sur les ailes qu'ils ont programmées à l'avance, ce qui nous fait donc les fameux 40 jours qui sont évoqués dans le livre.
Alors Jean Lepez, revenons tout d'abord sur cette opération Citadelle. Elle est souvent considérée comme une grave erreur stratégique d'Hitler. Vous dites que non, expliquez-nous pourquoi.
Ah non, ça n'est pas une erreur. Je dirais même qu'Hitler a choisi à peu près la seule option raisonnable. Il sait, toutes ces conversations en témoigne, ça on le sait depuis longtemps, il sait, après Stalingrad, qu'il ne peut plus remporter une victoire par chaos sur le front de l'Est. Autrement dit, il ne peut plus détruire l'armée rouge et renverser le régime des soviets. Il sait aussi qu'il est en lutte contre le temps. Dans son dos, d'un jour à l'autre, croit-il, n'en est rien, mais il le croit, les anglo-saxons peuvent débarquer quelque part sur les côtes de l'Europe occidentale. Tout ce qui lui reste à faire pendant cette année 43, où il pense qu'il aura encore à peu près les mains libres à l'Est, c'est détruire le maximum d'unités soviétiques, et si possible les plus modernes, les fameuses armées de tanks modèle 1943 mises sur pied après Stalingrad. Il trouve là, il pense que dans ce saillant de Koursk où elles sont rassemblées, il a une occasion unique de se saisir d'un million d'hommes environ et d'une grosse quantité de matériel, ce qui empêcherait Staline finalement de lancer une offensive d'été et d'hiver. En gros, il veut gagner du temps pour pouvoir se retourner à l'ouest et rejeter les alliés occidentaux à la mer.
Donc les Allemands déclenchent leur offensive le 5 juillet. Quelles sont les forces en présence de chaque côté, puisqu'on a toujours parlé de cette bataille comme étant le plus grand affrontement matériel?
Alors du côté allemand, on a 900 000 hommes, 3 100 chars, en y comptant les canons automoteurs, et 2 000 avions. Du côté soviétique, on recense 1 300 000 hommes, 3 400 chars, 1 900 avions. Apparemment, là, ça paraît très équilibré, mais il y a quelque chose qui fait la différence, c'est que les soviétiques ont accumulé, sous les ordres du général Koniev dans le front de la steppe, 500 000 hommes de plus et 1 600 chars. Il y a donc une supériorité de l'ordre de 2,1 contre 1 en infanterie, une légère supériorité de 1,2 contre 1 dans les blindés et une quasi-égalité en matière d'aviation. C'est donc pas disproportionné du côté des soviets. Hein. C'est une bataille qui est relativement équilibrée au départ.
Et au niveau de l'équipement?
Au niveau de l'équipement, je dirais que les Allemands conservent des avantages importants. Si on veut parler de technologie, ils ont toujours... Parce que c'est difficile de séparer la technologie et l'organisation.
Oui,
si vous voulez avoir un excellent char d'assaut... mais ne pas être capable de créer un système interarme qu'on appelle la Panzerdivision, ça sert à rien. Les Allemands avaient un très bon matériel. Alors, ils avaient un gros avantage en matière d'aviation. Ça, je reconnais au niveau tactique, organisationnel. La Luftwaffe a toujours damé le pion soviétique. Ça commence à se rééquilibrer au moment de course, notamment en matière d'aviation tactique de bombardement. Les Soviétiques redressent la tête. Les Allemands restent largement supérieurs dans les radiocommunications. leur système, leur équipement, ils capitalisent sur la seconde révolution industrielle dont ils ont été les leaders. Et ils sont vraiment, en matière radio, 10 ans devant les Soviétiques. Ils sont également, ils ont un avantage technologique avec leurs nouveaux chars qui vont apparaître, pas tout à fait exact pour le Tigre, qui est déjà apparu en 1942, mais qui apparaît en un peu plus grand nombre à ce moment-là, et surtout avec un nouveau matériel qu'on appelle le Panther, qui est un char théoriquement moyen, mais qui est à l'orée des chars lourds, et qui est, de l'avis de tous les spécialistes, le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. On est quasiment à l'orée du char de combat contemporain avec cet animal-là. Les Soviétiques ont donc perdu leur avantage en matière de blindés qu'ils avaient dès 1941 avec leur fameux T-34. Mais cet avantage, je dirais qu'il est, cet avantage allemand, il est sérieusement diminué par le fait que les matériels les plus modernes, Panther et Tigre, sont rares.
Alors la bataille s'engage le 5 juillet, les pertes sont énormes des deux côtés. Au bout d'un mois, les Allemands subissent donc des pertes colossales. Mais pourtant, ils sont sur le point de l'emporter.
Voilà qui se discute. Cette bataille, donc, qui finalement du 5 juillet au 17 juillet, ça fait que 12 jours, cette bataille est d'une violence absolument terrifiante. Les pertes allemandes ont été importantes, mais bien moins qu'on l'a dit. Le premier jour de la bataille, c'est 13 000 pertes, dont 3 000 définitives. 400 blindés ont été touchés, mais les deux tiers seront remis en état dans les 48 heures. Donc il ne faut pas se tromper, il faut lire les rapports de pertes des unités allemandes pour bien comprendre qu'en réalité, perdre une cinquantaine de chars dans la journée, ça ne les affole pas parce qu'ils en récupéreront environ 38 ou 40 deux jours plus tard. On répare très vite dans l'armée allemande. Donc, ils tombent sur une noix très dure, mais en gros, il faut regarder un peu les choses dans le détail. Il y a deux pinces. Il y a une pince qui s'abat depuis le nord, il y a une pince qui remonte depuis le sud. La pince nord, elle est très vite bloquée par les Soviétiques, elle n'a aucun espoir de déboucher. Clairement, les Soviétiques ont gagné la bataille au nord, c'est sans appel. La défaite du général Walter Model, elle est sans appel. Le succès de son opposant, le général Rokossovski, à l'époque général, elle est aussi sans appel. Il est le plus fort. Au sud, il en va tout autrement. On voit s'affronter Vatoutine, du côté soviétique, à Manstein, qui est une légende vivante de la Wehrmacht. Et il y a eu un moment qu'on pourrait appeler le point critique, le point culminant, l'acmé de la bataille, c'est le 12 juillet 1943, où Staline contraint littéralement Vatoutine et Vassilevski à jeter le gros de leur réserve blindée, la fameuse 5e armée blindée de la garde, contre le 2e Panzerkorps SS. Il y a une bataille qu'on appelle la bataille de la Prokhorovka, et dont il ne faut pas exagérer les répercussions, mais qui est surtout un faux historique retentissant. Les Soviétiques l'ont travesti en bataille, là où ils ont subi un grave échec. Les Allemands ont remporté ce duel de chars, ce qui fait qu'au soir du 12 juillet, on est dans une situation très déséquilibrée, où les Soviétiques ont perdu leurs réserves blindées, et où Manstein, lui, est encore deux Panzer Division et une Panzer Grenadier, c'est-à-dire une force très puissante qu'il peut libérer, à condition qu'Hitler le lui permette. Et on peut imaginer, mais ça n'était pas gagné, que ce supplément de force lâché au bon moment le 13 juillet aurait pu entamer une grande cavalcade jusqu'à Koursk. Et pourquoi pas venir frapper Rokossovski dans le dos et réussir l'encerclement dont rêvait Hitler. Sauf que Hitler n'a pas permis à Manstein de libérer ce surcroît de puissance qu'il avait sous la main et qui aurait pu faire la différence. La question intéressante, c'est pourquoi Hitler, qui est congénitalement un joueur qui prend beaucoup de risques, qu'il l'a prouvé depuis 1933 en matière politique comme en matière militaire, pourquoi est-ce que là, alors qu'il a peut-être à portée de la main une victoire importante, pourquoi est-ce qu'il interdit à Manstein d'utiliser cette réserve? Vous allez me poser la question?
Exactement. Alors pourquoi?
Pour deux séries de raisons. La première, c'est qu'il est vraiment joueur et qu'il a fait un calcul de risque. Et qu'il voit se profiler deux catastrophes bien plus graves que ne le serait le succès d'un éventuel encerclement à Koursk. Ces deux catastrophes qui menacent, c'est le débarquement des Anglais et des Américains en Sicile, le 10 juillet 1943, et l'effondrement quasi instantané de l'armée italienne. Hitler s'en doutait, mais ça n'avait jamais pris ses proportions. En Afrique, contrairement à ce qu'on a dit, les Italiens se sont bien tenus. Et là, d'un coup, ils s'effondrent. C'est le signe que le régime fasciste de Mussolini est à genoux. Donc Hitler, qui ne veut absolument pas perdre cet allié, qui veut conserver la botte dont il a besoin pour maîtriser, pour empêcher les Anglais d'être totalement maîtres de la Méditerranée, décide de prélever une unité politique, ça ne peut être que des SS, et une unité puissante, ça ne peut être que des blindés. Il n'en a qu'une sous la main, c'est le 2e Panzerkorps SS, celui dont Manstein a besoin pour réussir sa victoire. Donc, il préfère renforcer son allié qui va s'effondrer, ça lui paraît beaucoup plus grave, que de donner ses chars à Manstein. Puis la deuxième raison, et ça c'est une nouveauté, on ne le savait pas il y a encore 10 ans, ça a été découvert par l'Américain George Knipe, c'est que les Soviétiques ont réussi une diversion extraordinaire, ça c'est un vieux truc de la guerre, ils ont réussi une diversion géniale sur le fleuve Meuse, diversion qui a fait croire à Hitler que tout son flanc sud allait s'effondrer s'il ne dépêchait pas en pompier un certain nombre de Panzerdivision vers le sud. Il a donc enlevé toute sa puissance à Manstein pour en expédier une partie en Italie et une autre partie à 400 km de là, dans le sud, où il a été leurré par Staline.
Donc finalement, c'est la grande victoire stratégique de Staline.
C'est la victoire stratégique de Staline.
C'est ce qui permet aux Russes de l'emporter.
Ah oui, complètement. Ça leur permet tout au moins, pas exactement, ça leur permet de maintenir le front de Koursk, de lui garder sa cohérence, et ça leur permet surtout de déclencher les deux offensives sur les ailes qu'ils ont planifiées depuis 3 mois. Ce qui sont au nord, l'opération Kutuzov, qui est la destruction de la 9e armée allemande et la prise de la ville d'Orel, et au sud, l'assaut contre Kharkov. Ces deux opérations ont été planifiées, les troupes sont là en réserve, Staline ne donnera le signal que quand les Allemands auront été arrêtés à Koursk. Tant que les Allemands ne se sont pas arrêtés à Koursk, Staline n'ose pas ordonner à ses réserves de se lancer dans les opérations planifiées. Parce qu'il ne sait pas si les Allemands vont pas l'emporter à Koursk. Il y a une incertitude jusqu'au bout. Tous les historiens qui pensent que tout était joué dans les 48 heures se trompent. Il faut relire les télégrammes angoissés de Vassilevski à Staline, où il dit « Une percée allemande vers Koursk est encore possible, on est le 16 juillet. Ne vous départissez pas de votre réserve en char. »
Alors les Russes donc l'emportent quand même largement. Et cette bataille considérée donc comme une grande bataille matérielle, mais n'y a-t-il pas autre chose à retenir de cette bataille ?
Au niveau global ?
Oui.
Si. Si, je pense qu'il y a quelque chose d'important que j'appellerais la remise en question du mythe de la Wehrmacht. Qu'est-ce que c'est que cette armée dont Hitler a en partie hérité et qu'il forgera en partie ? C'est une armée qui est capable d'engranger à l'appel des succès tactiques. Elle tient cette capacité à remporter des succès tactiques, c'est-à-dire à un niveau opérationnel inférieur, de la Première Guerre mondiale où les Allemands ont découvert deux choses. Je simplifie, hein, parce qu'en réalité, ça remonte au 19e siècle. Mais la première chose, c'est l'Auftragstaktik, c'est-à-dire le fait que les officiers, y compris jusqu'au niveau subalterne, se voient attribuer une mission globale, mais on ne leur dit pas comment la remplir. On compte sur leur esprit d'initiative, leur liberté, pour pouvoir la remplir au mieux. Ça va donner une souplesse extraordinaire, une grande capacité d'initiative au commandement allemand, qui est sans égal dans toutes les armées de l'époque. Et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui a pu se passer pour les armées américaines qui courent désespérément après un modèle de ce type. La deuxième chose qui a été découverte en 1916 par les Allemands et qui va être utilisée à la Deuxième Guerre mondiale, c'est la tactique de l'infiltration. C'est on ne frappe pas du fort au fort, on essaye toujours de suivre la ligne de plus grande faiblesse de l'adversaire. On s'insinue, on s'infiltre, on manœuvre, on coupe, on tourne, on fait des attaques en tenaille. Ça, les Allemands savent parfaitement le faire, et ils seront pratiquement jusqu'au bout supérieurs aux Soviétiques et même aux Anglo-Saxons, disons-le clairement, jusqu'à la fin de la guerre. Mais c'est pas avec cet aspect, c'est pas avec la tactique que l'on gagne une guerre. La guerre, elle se gagne au niveau opératif et au niveau stratégique. Et là, il faut reconnaître que les Soviétiques ont développé, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais surtout depuis les années 20 et 30, une conception des choses qui leur fait considérer la bataille sur de grandes étendues, ça va avec leur territoire gigantesque, et dans la durée. Ils ont donc organisé leur armée en grandes unités, les fronts dont je vous parlais, qui finalement ne se préoccupent guère de tactique. On leur donne des objectifs en profondeur. Ces objectifs, elles vont les chercher, mais elles ne cherchent pas à peaufiner à tout prix l'aspect tactique. Je m'infiltre à droite, je m'infiltre à gauche. C'est pas trop le problème. Le grand état-major soviétique a, comment dirais-je, une pensée plus systémique. On tient que la guerre est un ensemble d'éléments interdépendants. Les soviétiques ont cette capacité à penser la totalité du front à chaque fois qu'ils mettent en jeu une offensive. Ils ne sont pas myopes. La Wehrmacht a été myope. Elle est obnubilée par ses attaques locales. Ce qui frappe, c'est l'ampleur de vue des généraux soviétiques, cette capacité à voir dans toute l'étendue d'un front qui fait 2500 km et de voir toujours 500 km en arrière. C'est ça l'art opératif. C'est ça la grande force des soviétiques. Et c'est ce qui manquera toujours aux Allemands qui n'ont, c'est quelque part, c'est une victoire intellectuelle pour le haut commandement soviétique. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a voulu nous faire croire depuis la fin de cette guerre.
Merci beaucoup Jean Lopez de nous avoir présenté cette bataille et d'avoir mis à plat certains nombres d'idées reçues qui se rattachent à cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Kurz, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht » paru dans la collection « Campagne et stratégie » chez Economica. On peut également vous retrouver sur Canal Academy pour la présentation de votre ouvrage paru dernièrement sur la bataille de Stalingrad. Je vous dis au revoir. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission.